Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la rade. On est ravis de vous retrouver pour une émission spéciale avec des invités aujourd'hui. Donc, je suis accompagné côté causeries de la rade de Gérald. Salut Gérald.
Salut Aurélien, salut tout le monde.
Et puis mes invités pour parler de cette émission spéciale supporter, Julien Perper, président des Fils de Besagne, et Eric Cossia, on va vous rappeler un petit peu après qui il est, et Hugo Greny. Messieurs, salut.
Bonsoir.
Salut. Bonsoir à tous.
Alors, une émission spéciale sur la grogne des supporters, on l'a annoncé sur Twitter et sur Facebook, parce que si vous suivez le RCT sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous en rendre compte, la grogne des supporters s'est fait intense ces derniers jours, et ça a un petit peu explosé, notamment la journée de mercredi, avec le même jour, une vidéo qui a fait un énorme buzz. Au moment où on a enregistré, on était quasiment à 700 000 vues, c'est celle donc d'Eric qui a découpé sa carte d'abonnement, et le même jour, et je pense que ce n'était pas concerté d'ailleurs, plusieurs supporters qui ont partagé une lettre ouverte au club qui a fait beaucoup de bruit et qui a été relayée là aussi par des milliers de personnes. Ça fait beaucoup de bruit, je pense que ça va faire parler au club. Donc Eric, peut-être on va commencer par toi puisque c'est vraiment ce qui a fait beaucoup parler. Comment ça t'est venu finalement? Alors pour ceux qui te suivent sur Twitter, c'est le Spoons notamment, tu es très suivi. On sait, si on te suit, qu'il y avait un certain ras-le-bol. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment t'en es venu finalement à cette décision de couper ta carte?
En fait, justement, pour ceux qui me suivent, et je vais presque dire même pour certaines personnes du club, puisqu'il m'arrive de parler avec eux, c'est pas vraiment une surprise, je dirais. Ça fait plusieurs moments, quelques temps que je parle de tout arrêter, de tout abandonner, de quitter mon statut d'abonné, etc., pour manifester mon mécontentement et en tous les cas le fait que je ne sois plus en phase avec la politique de ce club. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est une espèce de symbole, je veux dire, pour moi, la carte. Et alors, j'ai fait ça de manière complètement individuelle, je veux dire, c'est tout à fait un truc personnel, et ma carte, je veux dire, c'est autant un symbole, je m'en rends compte aujourd'hui avec le buzz de la vidéo, pour les gens et pour les supporters d'une manière générale, et même ceux d'autres clubs d'ailleurs, que pour moi, à titre personnel, parce que cette carte, elle symbolise l'amour que j'ai pour ce club depuis tant d'années, et je veux dire, c'est aussi un déchirement, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on me parle beaucoup du buzz de cette vidéo, je vais presque dire ce soir, j'en suis pas fier. J'aurais bien aimé ne pas devoir en arriver là et faire ce buzz-là. Hein. J'aurais préféré faire autre chose que faire ce buzz-là. Mais c'est une accumulation de choses. Et puis bon, évidemment, je suppose qu'on va y revenir et qu'on va en parler après. Mais la goutte d'eau, c'est Bruce Deveau. Je veux dire, moi, on en reparlera après. Je suis assez proche des minots, etc. Et ça me tord les boyaux, quoi. Je veux dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le gaz, une goutte supplémentaire.
Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi pour donner un peu d'éléments de contexte, c'est que depuis pas mal d'années, tu suis les minots, tu sponsorises l'équipe Krabos, donc tu as un attachement en plus particulier à ces minots formés au club.
Oui, ça me semble, oui, enfin je veux dire, c'est la suite logique pour moi en tant que supporter, et j'ai été partenaire de l'équipe Une aussi un temps, et puis il y a eu à un moment un partenariat qui a été fait entre les associations de supporters, Julien en parlera tout à l'heure, et les équipes de jeunes, et j'ai trouvé ça très intéressant, ça rapprochait les jeunes, suivre les éducateurs, etc. Et donc du coup on a vu évoluer ces minots, on les voit tous passer, on sait pertinemment qu'ils ne deviendront pas tous rugbymen professionnels et qu'ils n'intégreront pas tous l'équipe Une, mais en tous les cas quand on en a et quelques pépites comme on a aujourd'hui Mathias ou Jules, et qu'on a vu juste avant Bruce, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à titre personnel, qu'on sait la valeur du gamin, etc. Ça tord les boyaux, quoi. Ça fait mal au ventre quand on sait en plus qu'on est vraiment dans le dur d'un point de vue sportif. C'est pour moi une souffrance, une énorme souffrance.
Bon, Hugo, forcément, toi tu peux pas être abonné parce que je crois que tu habites assez loin de Toulon, mais je vais quand même te demander ta réaction. Comment tu as réagi finalement quand tu as vu cette vidéo?
Et qu'est-ce que ça. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé.
Ouais, dis-moi, non, comment tu vis ça finalement?
Donc, ouais, de mon côté, j'habite sur le nord de la région parisienne, donc compliqué d'être abonné, mais bon, j'essaie d'être au maximum présent. Je descends plusieurs fois dans l'année à Toulon et j'étais au Racing dimanche dernier. Donc, je connais bien Eric, hein, quand je suis descendu il y a quelques semaines. Ma volonté numéro une, en plus d'aller au stade, c'était de le rencontrer. C'était un objectif, voilà, je voulais que mon fils le rencontre. Parce que pour moi, même si on a énormément de désaccords, ce genre de personnes, pour moi, c'est les garants de l'identité toulonnaise. Donc, je m'y attendais. Clairement, je m'y attendais. C'était juste une question de timing, de savoir quand est-ce que ça allait arriver. Pour info, il vient de passer sur BFM VAR. Il est à plus de 700 000. C'est incroyable. Et ça va faire du bruit, mais ça montre beaucoup de choses sur la situation actuelle, sur le fossé qui est en train de se creuser entre certains supporters et le club. Entre supporters, on y reviendra tout à l'heure. Mais pas surpris, pas surpris. Pour moi, il est l'image même et il montre voilà qui est le supporter toulonnais de A à Z.
Je vais presque dire, j'entends Hugo et ça me touche beaucoup parce que quelque part il y a une contradiction, c'est que j'ai une forme de responsabilité à travers ce que j'entends. Je me dis qu'en étant un garant, et je le conçois, j'ai une forme de responsabilité à surtout ne pas rester sans rien faire, parce qu'il y a aussi cette hypothèse, hein, j'entends bien l'autre son de cloche qui consiste à dire un supporter ça supporte, et ça supporte dans tous les sens du terme, ça supporte tout jusqu'à voir son club mourir. On est partagé dans tout ça. Est-ce qu'on peut supporter de voir son club mourir? Donc, est-ce que je peux, quand j'entends les jeunes, les minots et Hugo me dire ces choses-là gentilles, est-ce que je peux rester sans rien faire et rien dire? Alors, évidemment, c'est symbolique. Hein, je veux dire, c'est pas pour ça que Bernard Lemaître va m'appeler demain matin pour me dire c'est bon, expliquez-nous ce que vous voulez, on change tout. J'en suis conscient, hein, mais je veux dire, en tous les cas, à mon niveau, je veux avoir l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut faire jusqu'au bout.
Alors, c'est intéressant quand tu dis le club ne va pas m'appeler, etc. Il faut quand même rappeler qu'en novembre dernier, il y a eu ces fameuses réunions qui ont fait beaucoup parler avec un certain nombre de supporters. Je pense que d'ailleurs, dans les personnes présentes dans cette émission, on est la plupart à avoir été conviés par le club, parce que le club, ça a été une nouveauté. Ils ont à la fois convié des présidents de groupes de supporters, comme toi, Julien, qui depuis des années fait des réunions avec le club, mais aussi des supporters un peu triés sur le volet qui pouvaient avoir une certaine influence. Bon, ces réunions, Eric, Julien, vous y étiez, je crois que ça avait suscité pas mal d'espoir, non, Julien, à l'époque? Vous aviez l'impression d'être écouté, en
tout
cas.
Moi, je reviendrai juste d'abord sur ce que vit Eric aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs années qu'on tire la sonnette d'alarme au fils de Besagne, ça fait plusieurs années qu'on fait des communiqués, des prises de parole, que ce soit en réunion... Et on nous écoute pas, on nous prend pour des fous, on nous dit qu'on exagère. Sauf que moi, je les vois, les adhérents, j'en vois toute la journée, j'en vois au stade, je discute avec eux. Et j'en vois plein qui sont à bout et qui sont à cran. Et aujourd'hui, bien évidemment, ce que fait Eric, c'est, certains diront que c'est une décision extrême. Mais bon, voilà, je veux dire, d'un côté, le supporter toulonnais, il est toujours aussi un petit peu dans l'excès. Et moi, je suis pas surpris qu'aujourd'hui, il y ait des gens comme Eric qui en arrivent là. Parce que le club n'a pas écouté. Tout simplement. Voilà, on en arrive là parce que le club ne nous écoute pas depuis 5-6 ans. Concernant cette réunion, ces réunions qu'on a eues avec Pierre Mignoni, c'est vrai qu'elles avaient donné beaucoup d'espoir parce que pour la première fois, justement, j'ai eu ce sentiment d'être écouté. Vous voyez, je fais un peu le parallèle à ce que je disais il y a 2 minutes. On a eu le sentiment d'être écouté, de pouvoir vider notre sac, laver un peu notre linge sale en famille. Et quand on est ressorti de cette réunion, on était extrêmement confiants. Moi, j'étais content d'avoir pu dire ce que j'avais sur le cœur depuis de longues années. Malheureusement, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que la direction du club, elle met un petit peu un coup de canif dans le contrat moral qui avait été passé lors de ces réunions. On a parlé d'identité aussi, de ce qu'on voulait que Mayol redevienne. Quand on parle de l'identité de Mayol avec ces gens-là pendant 2 heures, qu'on nous dit oui, on vous comprend, et qu'un mois après, j'ai un questionnaire qui me demande si je veux faire des kiss-cam et des karaokés géants à Mayol, on vous a répondu lors de cette réunion. Donc j'ai l'impression quand même qu'on met voilà, un coup de canif, et j'ai très peur de ce que pourrait devenir Mayol demain, un Disneyland Paris à ciel ouvert, quoi, un peu. C'est très très inquiétant. Donc voilà, moi ces réunions, elles ont suscité de l'espoir, et puis on a très vite déchanté, quoi, tout simplement, voilà.
Mais c'est important ce que tu dis, Julien. Moi, je voudrais juste revenir sur un truc. Cette réunion, vous y étiez tous les deux, Eric et Julien. Tu dis on a eu l'impression d'avoir été entendu, mais est-ce que tu as été entendu par les bonnes personnes? Parce que nous, ce qu'on en a compris de ces réunions, c'est que vous avez surtout discuté avec Pierre Mignoni. Et tout ce que vous regrettez aujourd'hui, ce qui se passe dans le club, c'est pas Pierre Mignoni qui décide ça directement.
Il y avait quand même les équipes.
Non.
Alors, du coup, il y avait qui
commercial sur la deuxième, il y avait François Pesanti quand même qui.
Donc, je veux dire, on peut considérer qu'à part Bernard Lemaître, effectivement, mais on peut aussi estimer que Bernard Lemaître, compte tenu de son âge, etc., il puisse déléguer les choses. Alors, même s'il était prévu une troisième réunion avec laquelle on aurait pu, là aussi, comme disait Julien, vider notre sac en toute
gentillesse. Elle n'est jamais arrivée, cette réunion. Ouais.
Cette réunion n'est jamais venue. Mais bon, on peut considérer que déjà, on avait quand même des gens en face de nous qui sont quand même des décisionnaires, des décideurs. Donc voilà, c'est assez décevant. Après, une parenthèse sur Pierre Mignoni, je pense qu'il a voulu prendre plein de choses à son compte, qu'il a bien saisi la problématique des fractures entre supporters et le club, etc., parce qu'il y a plusieurs fractures, et qui en plus ont été un peu entretenues pendant quelques années. Il a bien saisi tout ça, sauf que bon, malgré toute sa bonne volonté, je ne suis pas sûr qu'il ait que ça à faire en ce moment, quoi.
Est-ce que c'est dire, ce que tu sous-entends aussi, c'est que Pierre Mignoni finalement joue un peu de ces dissensions? On le sait très bien, alors sur Twitter, ça se prend à la tête aussi entre groupes de supporters. Est-ce que finalement, c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, Hugo, parce que quand nous, on écoute les conférences de presse de Pierre Mignoni et qu'il fait régulièrement ces petites références, ces petites piques à certains qui ne nous aident pas, t'en penses quoi? Il vise qui là-dessus? Les supporters finalement?
Moi ça me fait pas mal... J'ai beaucoup de recul sur les conférences de presse de Mignoni, parce que en étant un petit peu loin de tout ça, moi je vois du Eric, du Julien chez Pierre Mignoni. Des fois on reproche à Pierre Mignoni d'être toulonnais, j'ai l'impression. Mais ses réponses, où il est sanguin, où il intervient, où il est dur, c'est du Toulon, c'est du toulonnais. Après, le fait que faut pas être dupe. Les petits pics qu'il jette, on nous met des bâtons dans les roues, on n'est pas tous derrière nous. Il est pour un peu pour Twitter, il est un peu pour les causeries, il est un peu pour les personnes autour, il n'est pas que pour la presse. Et je pense qu'on est tous totalement conscients de ce message-là. Mais j'ai l'impression qu'on reproche à Pierre Mignoni d'être un peu trop toulonnais dans sa manière d'intervenir, d'agir. Et je le répète, je reviens sur ce qu'a dit Eric, il a voulu être partout. Et quand on veut être partout, à un moment, on se retrouve un peu nulle part. Je le trouve extrêmement tendu ces derniers temps. Et moi, je le trouve extrêmement seul à la barre du bateau. Et moi, à titre personnel, qui est quelqu'un de plutôt nuancé, de mesuré, et on va y revenir tout à l'heure, moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de Laurent Emmanuelli, de son rôle au club, de ce qu'il doit faire, du soutien qu'il doit apporter à Pierre Mignoni. Pardon. Je pense que voilà, il s'est mis sur le devant de la scène et malheureusement, il était solo. Donc Pierre Mignoni il prend tout ça dans la tête et c'est un sanguin, donc il réagit.
C'est dangereux, Hugo, quand même, de faire ce que fait Pierre Mignoni. C'est dangereux de vouloir fracturer les supporters. C'est dangereux de vouloir les opposer les uns aux autres. Parce que c'est ce qu'a fait son prédécesseur, Patrice Collazo, quand même. Hein. Aujourd'hui, il y a une communauté RCT. Il y a des supporters du RCT. Voilà. Il n'y a pas des bons, des méchants, des gentils, des mauvais. Ça n'existe pas. Il y a des supporters du RCT.
Julien,
et ça, aujourd'hui, il faut que la direction du club,
Julien,
non seulement le comprenne, oui.
Mais c'est Bernard Lemaitre qui a commencé. Hein. Je veux dire, c'est malheureux. Hein.
Peut-être. C'est depuis
mais
le début de l'ère Lemaitre.
Les faux, les machins. Ça, c'était une erreur.
C'est dangereux.
Une erreur de com' très maladroite. Hein. Mais oui, je te rejoins.
Mais peut-être,
dangereux.
Mais ça continue aujourd'hui.
Ça part de là, parce que. J'ai entendu dans l'introduction d'Aurélien tout à l'heure d'où vient le problème. Je veux dire, il faut revenir aux sources, comme on dit.
Et c'est intéressant d'en reparler.
Et les premiers problèmes, on est obligé d'y revenir. Alors, je ne veux pas taper sur M. Bernard Lemaitre. Hein. Mais bon, maladresse, non, mais peut-être, je ne sais pas.
Je me tiens que fracturer les supporters, c'est dangereux.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que les déclarations maladroites de Bernard Lemaitre, elles lui sont toujours reprochées, même 3-4 ans après, parce que finalement, les pseudo-supporters, ça a commencé là, ça a été dans sa bouche à lui, dans celle de Collazo, et puis il a eu beaucoup de déclarations maladroites. Il a eu un comportement aussi qui a beaucoup blessé, et là je sais que Julien, à l'époque, t'avais prévenu le club que... Le départ de Louis Carbonel, ça leur serait reproché pendant des années. J'ai l'impression que 5 ans après, on y est toujours.
Bah, évidemment.
Enfin, 5 ans après. 2-3 ans après, on y est toujours là-dedans. Et que la plaie ne s'est toujours pas refermée, finalement.
Bah, évidemment.
Et si le départ de Carbonel, c'est pas une des choses.
Elle ne sera jamais refermée, cette plaie.
Un point marquant. C'est un des points marquants. Mais le vrai problème de Bernard Lemaitre, c'est que quand il est arrivé à la tête du RCT, il doit comprendre où il arrive. Il doit comprendre ce qu'est Toulon, il doit se mettre tranquillement autour d'une table, discuter avec les gens qui sont ici depuis des années, essayer de comprendre ce que c'est Toulon, le contexte, etc. Ce travail, il n'a pas été fait. Ils sont arrivés en disant, bon, on a tous réussi, on a tous des brillantes carrières professionnelles, on va arriver, on va gérer ce club comme il faut, voilà, asseyez-vous, fermez-la et écoutez ce qu'on a à vous dire et regardez comment on va gérer ce club. Ça ne peut pas se passer comme ça à Toulon. On ne peut pas gérer le club si on ne prend pas en compte et en considération le contexte et les supporters. Et de là... Parce qu'il n'a pas fait ce travail-là, il a enchaîné les erreurs. Bon, nous, je crois que pour ce qui est des fils de Besaye, en tout cas, on a toujours on s'est toujours proposé d'être là, à l'écoute, de participer à des groupes de travail, des réunions de travail pour apporter des idées, pour les éclairer, pour les conseiller. Bon, ils ont fait le choix de ne pas nous écouter et de nous mettre dans la case des casse-couilles, ils ont le droit, mais en attendant aujourd'hui, s'ils avaient écouté un petit peu plus la Vox Populi, pour reprendre un terme de notre président, s'ils nous avaient un petit peu plus écouté, eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et j'ai souvenir, bien sûr, du départ de Louis Carbonel. Je dis à une époque en réunion à Frédéric Bier, qui était directeur général de l'époque, attention, le départ de Louis Carbonel, ça va être une fracture terrible chez les supporters toulonnais. Réponse de Frédéric Bier, Julien, vous exagérez, vous êtes toujours dans l'exagération. Pas de souci, faites ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, on en parle encore.
Ben évidemment, ah ouais. Bernard Lemaître a ça accroché. Il restera le président qui a viré le minot. Dans 10 ans, ça sera toujours le président qui a viré le minot.
Hugo.
Je voulais juste faire une petite parenthèse. La lettre ouverte des supporters là, fait la une de RMC Sport. Oh. Donc c'est assez dingue. Et c'est plutôt marrant. C'est la petite parenthèse.
Très bien écrite en plus, je veux dire, globalement, ouais. Rien à dire.
Mais je voudrais juste comprendre un truc, encore une fois. On est sur des trucs très. Là, on parle de Carbonel, on parle de Deveau. En fait, je voudrais bien comprendre, moi, concrètement et précisément, ce que vous reprochez au club. C'est-à-dire que pour qu'Éric, tu arrives à couper la carte de ton abonnement, pour que Julien, tu tires la sonnette d'alarme depuis longtemps, tu le dis. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de ce club depuis l'arrivée de Lemaître, concrètement parlant, avec son nouvelle équipe, qu'est-ce qui s'est passé au stade, au club, dans la direction sportive? Qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement pour qu'on puisse, que les gens qui nous écoutent comprennent bien tout ce qui se passe? Sans vouloir faire une liste qui n'en finira jamais. Hein.
C'est parti pour 30 minutes, là.
Non, mais les points les plus importants pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette situation-là aujourd'hui?
J'ai l'impression, si je pouvais résumer un peu, mais vous allez peut-être dérouler un peu plus derrière, mais qu'il y a déjà eu à la base un manque de respect finalement pour le peuple toulonnais, un manque d'écoute, et aujourd'hui finalement des braises qui sont rallumées régulièrement, de l'huile jetée sur le feu régulièrement, j'ai l'impression.
Éric, non, mais sur la, enfin, si on peut parler de la formation toulonnaise, c'est un sujet qu'on maîtrise avec Éric, parce qu'on a passé des heures à aller au Lagrange à discuter avec des éducateurs, avec des dirigeants de la CTA Sceaux. Quand Bernard Lemaître arrive, il nous dit le projet aujourd'hui, le RCT version Mourad Boudjal, ça ne peut plus exister, on n'est pas complètement de nœud, on l'a bien compris, Pierre Mioni le répète toute la journée, mais on l'a compris. Hein. Il nous dit le projet, c'est la formation toulonnaise. Très bien, on applaudit dès demain. En plus de ça, ça tombe bien, on est une génération qui est championne de France Espoir. Qu'est-ce qu'on fait? On est incapable de conserver au club nos meilleurs espoirs. Florent Van Verberg, Louis Lebrun, Louis Carbonel, Mathieu Smaïli qu'on a rattrapé quand même sur le départ, hein. Il avait quand même un pied et demi dans le train pour Pau. Aujourd'hui, c'est Bruce Deveau. Il y a quand même là un gros souci entre ce qui est dit et ce qui est fait. En parallèle de ça, je rappelle que l'entraîneur des espoirs qui était champion de France à l'époque, Olivier Baudon, il est mis au placard. Bon, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui étaient incohérentes. Pourquoi aujourd'hui, si Bernard Lemaître avait voulu que la formation toulonnaise soit au cœur du projet, petit 1, au lieu de faire une brasserie et des salles de séminaire, on faisait un centre d'hébergement qui est aujourd'hui quelque chose qui est demandé par tous les éducateurs du Rugby Club Toulonnais Association. On a tenu un discours qui a été « on va faire de la formation toulonnaise notre projet ». Ça n'a pas été suivi des actes. Le fameux double projet qui est d'accompagner les joueurs aussi bien sur le plan sportif que sur le plan extrasportif. Nous n'avons pas mis les moyens sur ce projet-là. Il n'y a aucun partenariat qui est noué avec les universités de notre région. On est à la traîne par rapport à des clubs. Quand Louis Lebrun s'en va, il va à Castres parce que Castres lui propose un double projet qui est plus intéressant que Toulon. Non mais c'est hallucinant, on est au fin fond du Tarn quand même. Donc aujourd'hui, il y a eu un discours qui n'a pas été suivi d'actes. On a sacrifié toute une génération incroyable, une génération dorée, qui était programmée pour jouer en équipe 1 au RCT. On n'a pas fait les efforts pour garder ces joueurs-là, ces minots-là. On n'a pas mis l'accompagnement qu'il fallait et on n'a pas fait les efforts. Et pire que ça, on ne les respecte pas finalement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des tractations, parce que je ne veux pas trahir de secrets, mais Florent Van Verberg, quand vous regardez comment son cas il est géré, il n'est pas géré comme il aurait dû être géré. Je veux dire, c'est des minots qu'on doit verrouiller. Or, on ne les verrouille pas. Je veux dire, on va prendre l'exemple actuellement de Jules Coulon. Très bien, il a dit chez Midi Olympique il y a quelques semaines qu'il allait prolonger. Il n'y a aucun problème. Il est en fin de contrat. Nous sommes au mois de mars. Il n'a toujours pas prolongé. Qu'est-ce qu'on attend ? Depuis 6 mois, il est en discussion avec le RCT. On attend quoi ? Voilà, on attend quoi ? Je ne sais pas. Donc voilà, je veux dire, je crois que.
Ça devrait être verrouillé depuis partir, l'année dernière.
C'est un crève-cœur. Van Verberg, je dirais, il a effectivement, découvert Mayol, ramasseur de balles quand il était minot. Le RCT, il bande pour ce club. Il habitait à La Rode, à 50 mètres de Mayol, et ses minots n'est pas capable de les conserver, quoi. Il part de Toulon. Patrice Collazo m'explique en réunion, je m'en rappelle très bien quand on parle de Florent, il me dit « Ah non, mais il est impatient, Florent. » Bon, il part de Toulon, l'année d'après, il fait une finale de championnat de France à Castres. Avec Castres, voilà le minot qui n'était pas prêt quand même. Hein. Tout ça pour recruter Thomas Jolmes, qui a quand même été un échec à Toulon. Ça va mieux pour lui à Bordeaux, tant mieux, mais ça a été un échec à Toulon. Il y a eu des erreurs qui sont quand même impardonnables. Aujourd'hui, on a des grosses problématiques au poste de numéro 10. Louis Carbonel, il n'est plus là. Louis Lebrun, il n'est plus là. On pourrait même aller chercher Berdeux, qui n'est plus là aussi. On a des 10 qui jouent dans tous les clubs 14. Oui, Berdeux. On a tous les 10... on a des 10 qui jouent dans tout le top 14 et qui sont tous formés à Toulon. Il y a un problème quelque part quand même. Bon voilà, c'est un peu moi ma vision en tout cas.
Ouais, ça c'est la partie jeune, mais je veux dire, il y a tout ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Oui, mais il y a tout ce qu'on a évoqué sur le dialogue, la manière de s'adresser effectivement aux supporters, les erreurs de com. Alors après coup, on nous explique que c'est plus des maladresses que de la mauvaise intention, etc. Bon, moi je veux bien tout entendre, mais en tous les cas, c'est des raisons et des causes. Elles y sont aussi dès le début. Je veux dire, après, il y a la culture. Quand on fait la réunion avec Pierre Mignoni, il nous explique qu'il a envie de retrouver le Mayol qu'il a connu quand il était jeune, le Mayol en feu, le Mayol chauffé à blanc, etc. Et comme je le lui dit en face, et il pourrait venir en témoigner, tu peux pas nous demander ça alors qu'on a des danseuses 5 minutes avant le coup d'envoi, quoi. Enfin bon, alors là aussi je sais que je fais une petite fixation, on va me dire que je fais une fixation là-dessus, mais c'est anecdotique, mais c'est comme la carte, c'est symbolique, je veux dire, pour moi ça ne doit plus être, ça ne devrait plus être, je veux dire, on nous l'a dit, mais ça y est toujours, je veux dire, bon, ça c'est encore l'âme de Mayol, le côté guerrier, toutes ces choses-là, petit à petit on les fait disparaître, la tarification dans le stade pour permettre aux jeunes de mieux accéder, alors on fait un pas en avant, un pas en arrière, c'est jamais clair, enfin je veux dire, il n'y a pas une démarche constructive, il n'y a pas vraiment un échange, un dialogue, en fait Julien disait tout à l'heure dans ces réunions, on a eu la sensation d'être entendu, mais en fait on était écouté mais pas entendu, quoi. Je veux dire clairement, on n'a pas été entendu, mais on a l'impression que comme maintenant. C'est dit... Oui, absolument. Hein. Moi, j'ai eu la naïveté d'y croire. Hein. Comme il s'est dit dans la lettre aujourd'hui, là, effectivement, on a des gens dans des bureaux qui ont fait probablement des grandes études, comme le disait Julien aussi, qui sont arrivés avec des grandes expériences professionnelles et qui ont pensé avec ça que ça suffisait pour réussir au RCT. Mais en fait, non. Ici, tout est différent.
Toi, Hugo, qui habite un peu plus loin, comment tu le vois justement ça ? Est-ce que pour toi, c'est notamment quand tu viens, que tu montres Mayol à ton fils, c'est important pour toi cette culture de rebelle, de combat, etc. Ou finalement, non, enfin, tu vois, ce qui touche aujourd'hui Eric, toi, c'est pas un truc qui forcément te touche, par exemple.
Si, cette culture est très importante. Après, moi, j'ai beaucoup plus de mal sur le côté un peu extrémiste parfois où Julien en parlait, on crée une cassure entre les supporters. Là, moi, c'est ce qui me dérange vraiment. C'est que chacun est libre de vivre sa passion à sa manière. Moi, j'ai eu, je suis assez actif sur X, anciennement Twitter. J'ai eu des gens qui sont venus me voir, qui vont à Mayol tous les week-ends, qui me disent qu'ils y vont pour, qu'ils travaillent toute la semaine, c'est leur bouffée d'oxygène, qui ont besoin de se libérer. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui vivent cette passion qui fait parfois mal, comme peuvent le vivre Eric ou Julien quand c'est plus compliqué, etc. Et en fait, il y a plusieurs types de supporters. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que l'actualité, les désaccords créent une tension aussi au sein des supporters, alors que dans ces moments où c'est plus difficile, parce que même moi qui suis plus nuancé, il faut ouvrir les yeux. On sait que la situation, elle est compliquée. Moi, j'ai énormément de questions. Je me demande qui fait quoi, qui dirige quoi. Mais c'est dans ces moments, alors ça fait peut-être idéaliste, mais c'est dans ces moments où les supporters, on devrait peut-être être main dans la main, ne pas aller taper sur le copain qui, lui, veut vivre sa passion un peu plus sereinement, l'autre qui va être un peu plus agressif, dans le bon sens du terme, bien sûr. Mais voilà, j'ai ce côté-là qui peut me déranger. Et juste pour finir, ce côté caché derrière le clavier ou sous une autre PP, je vais aller insulter le CM qui, malheureusement, moi, je vais vous dire, j'ai rencontré le CM du club, les gens qui interviennent, parce que j'ai eu la chance de faire visiter l'intérieur du stade à mon fils, d'aller dans les vestiaires. Et je vais prendre l'exemple du communiqué de Tolofua. Quand derrière, il y a pluie d'insultes, etc. Faut pas oublier que le petit stagiaire ou le CM qui est là, ça pourrait être, moi j'ai deux enfants, ça pourrait être mes enfants, ça pourrait être vos enfants. Lui, il obéit aux ordres de là-haut, quoi.
Mais évidemment.
Et quand lui, il prend derrière une pluie d'insultes, c'est ça qui me dérange un petit peu. Moi, je comprends tous les côtés. Ça, je le comprends totalement. Mais je veux juste un peu de bienveillance, ça fait non, pas non, de mal.
Mais évidemment. Ouais, mais après, Hugo, c'est pas lui qui est visé. C'est ce qu'il présente. Il est là pour faire un taf. Donc, du coup, exactement, quand il fait ça, après la merde. En fait, Tolofua, c'est pas le départ de Tolofua. Le Tolofua, c'est qu'avant, on nous dit qu'il part pas. Après, on nous dit un autre truc. C'est que sur la forme, c'est dégueulasse. Sur le fond, moi, on veut bien entendre que Tolofua, il s'en aille. Et pourquoi pas? Quoique, tu vois. Mais sur la forme, c'est tellement nul. Que ça crée de la colère chez tout le monde, et comme en plus la situation est tendue, bah le mec, le CM, oui, bah le CM, il prend parce que il représente le club, il doit pas le prendre personnellement. Alors après, je sais pas l'âge qu'il a, peut-être que pour lui c'est plus compliqué.
Ils sont très jeunes.
Non, mais dans ces cas-là, il faut changer. C'est Hugo, la responsabilité du club de pas mettre un jeune fragile à ce poste-là. Hein.
Bien sûr.
Hugo, tu mais parles évidemment de
ils sont plusieurs, hein, il n'y a pas qu'une personne qui tourne derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, juste un peu de bienveillance. Et alors, les gens qui sont autour là, de la table, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas quoi que ce soit, je le vois pas. Ah ben... mais voilà, un peu de bienveillance entre supporters déjà, moi je trouve que ça nous ferait un peu de bien, vu la période.
Ouais, mais Hugo, tu parles de bienveillance entre supporters. Le problème, c'est que, à commencer par la direction du club, Hugo, à partir du moment où, en conférence de presse, on nous met des bâtons dans les roues, il y a des gentils, il y a des méchants, comment on fait? Comment on fait, Hugo? Tu comprends, puis, je veux dire, aujourd'hui,
surtout,
il faut comprendre
quand
que
tu as des...
dans, je et dis, plus, il y a une nous, seule c'est communauté, nous les méchants. Il y a aujourd'hui, il y a une seule communauté RCT. Non, mais il y a une seule communauté RCT. Il y a des gens pour qui le RCT, c'est un morceau de leur vie. Quand ça gagne pas, ils passent un week-end de merde, ils dorment pas. Il y en a d'autres, ils ont la chance, deux heures après, d'avoir oublié ce qui s'est passé sur le terrain. Et je ne juge pas ça, tant mieux pour eux. Mais il faut arriver à admettre que pour certains, eh ben oui, ils vont passer une semaine de merde quand le RCT perd. Et ça, il faut arriver à le comprendre, parce que ça leur prend plus au trip qu'à un autre. C'est pas pour ça qu'il y en a un qui est gentil et qu'il y en a un qui est méchant.
Bien sûr.
Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est simplement des façons de supporter autrement et différemment.
Ah, mais clairement, des deux côtés, hein. Le mec qui vit ça plus cool doit comprendre ceux qui sont plus dans l'expression, dans le fait que ça flingue une semaine, etc. Je suis totalement d'accord. Mais avoir un peu d'ouverture à ce niveau-là et comprendre que chacun peut vivre les choses différemment, surtout vu la période, un peu plus de solidarité entre supporters et un peu plus d'ouverture d'esprit, ça fait pas de mal. Comme tu dis, on a tous un truc qui nous lie, qui est fort, c'est le RCT.
Et en fait, il y a une grosse différence, à mon avis, dans la perception des uns et des autres. C'est que certains, et je pense que c'est le cas de Julien, d'Éric notamment, ils vont être attachés à défendre ce qu'ils considèrent comme étant l'institution Rugby Club Toulonnais. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont plutôt être attachées aux gens qui sont là. Tu vois, il y a des groupes de supporters, des présidents de groupes de supporters. Et pour les nommer, hein, les Bulls, les Mordus, ils vont être très attachés à Pierre Mignoni. Ils vont avoir un lien direct, ils vont défendre Pierre Mignoni. Alors que tu vas avoir d'autres supporters qui vont dire « Moi, Pierre Mignoni, en soi, je m'en fous, en fait, tu vois. Je défends le Rugby Club Toulonnais et je défends le bien du Rugby Club Toulonnais, en tout cas ce que moi j'estime être. » Tu vois ce que je veux dire? Et c'est qu'à un moment, un salarié, finalement, du club, il n'est que de passage, quoi. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre les uns et les autres, tu vois. C'est que je pense qu'aujourd'hui, quand tu as des gens comme certains qui sont autour de cette table, qui critiquent le club, ils vont critiquer le fait que certains ne sont pas compétents dans leur job ou n'ont pas les résultats demandés. Ça ne veut pas dire que tu veux casser, détruire ton club.
Et bien sûr, je l'entends. Mais attention, je parle d'insultes entre supporters. Voilà, moi je sais que voilà, Il y a certaines personnes, ça n'a pas lieu d'être
voilà. Une étude.
Il y a des personnes qui ne sont pas à leur place, on le voit, sinon il y aurait moins de difficultés, la période serait, même dans la difficulté, ce serait plus fluide, j'ai envie de dire. Ça, je le sais. Mais quand je parle de... Voilà, il y a un flot de tension qui actuellement est compliqué. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se réfugie derrière les insultes, etc. Et qu'on essaie tous de comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de chacun.
Pour ce qui est des fils de besogne, on fait quand même notre job de club de supporters. On se déplace, on anime le stade et on est toujours au soutien de l'équipe. Et ça n'est pas parce qu'on a fait X communiqués
au cours
des 5 dernières années qu'on a abandonné nos missions de supporters. Voilà. Encore une fois, on était 20 courageux à être allés à Pau il y a 15 jours. Voilà, malgré les mauvaises prestations, malgré les mauvaises performances. Et on n'a jamais déserté Mayol, et on est toujours là, et on fait toujours le taf. Voilà, parce que là aussi, des fois, j'entends et je lis que les fils de Bedagne, c'est des méchants, etc. Quand ils auront fait autant de kilomètres que font nos adhérents, on reviendra en reparler quand même.
Évidemment, avec le rôle d'un club de supporters, personnellement, je reviens à ma petite vidéo du jour, je veux dire, c'est complètement individuel comme initiative, mais en même temps, je veux dire, elle est symbolique dans le sens où, comme tu disais Hugo, il faut essayer d'avoir de la bienveillance, etc., sauf qu'à un moment, ça fonctionne plus. À un moment, si on reste à se dire ben, « ça va aller mieux l'année prochaine, et ben, on va attendre le prochain match, et puis on attendra l'année prochaine », sauf que ça fait 6 ans qu'on attend. Ça fait 6 ans, bordel! C'est pas depuis le début de la saison. J'ai bien précisé dans ma petite vidéo ce matin que ça n'avait pas de rapport avec les résultats de cette saison. Je veux dire, je rappelle quand même que je suis supporter depuis 40 ans, que j'ai 56 ans et que je suis né à Toulon, et que des périodes de vaches maigres, j'en ai connues, et ça m'a pas empêché. Mes meilleurs souvenirs sont en Pro D2, donc ne mélangeons pas tout. C'est pas parce que les résultats ne sont pas bons. C'est un tout. Je veux dire, c'est un manque de communication. Tu le dis aussi toi-même, Hugo, on ne sait plus trop qui fait quoi et qui dit quoi. La com, c'est une catastrophe. Mais ça, ce n'est pas que cette année. C'est depuis 5 ans. Mais on fait quoi pour changer ça? Qui fait quoi pour changer ça?
Attention, je l'entends. Hein, le fait qu'il y ait une impatience chez les supporters.
Non, mais ce n'est pas une impatience, Hugo. C'est pas de
l'impatience. Non, pas une impatience. Attention,
on n'est pas impatient. Je considère qu'au bout de 6 ans, ce n'est plus de l'impatience. C'est sauf qui peut. On va mourir.
J'ai utilisé le mauvais terme. J'ai bien compris.
La lettre ouverte, elle est très intéressante parce qu'elle montre bien qu'aujourd'hui, le malaise, il n'est pas que sportif. Voilà.
Mais évidemment. Je n'arrête pas de préciser aussi que les résultats sportifs d'aujourd'hui qui ne sont pas bons sont aussi la suite logique et la conclusion de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. C'est aussi des problèmes de com', c'est aussi des problèmes de relations, c'est aussi des problèmes de responsabilité de chacun à divers postes, c'est aussi des problèmes de communication parce que vous croyez que quand Tolofua ou les autres joueurs apprennent par Twitter que le joueur s'en va, que l'autre arrive, etc., ça met une bonne ambiance dans le groupe. Tout est lié. Aujourd'hui, c'est la suite. Et malheureusement, je suis très pessimiste, contrairement à toi, Hugo. Et je t'en félicite de rester optimiste. Tant mieux, il en faut. Je souhaite que ce soit toi qui aies raison. Mais je suis très pessimiste.
On sera dans le top 6, les gars.
Ouais, j'ai bien noté ton tweet que tu as.
Je le garde.
Ton médecin.
T'inquiète, il est de côté.
Le problème, c'est que d'être dans le top 6 ne solutionnera pas le problème.
C'est pas le problème.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre, que je pose à vous quatre. Parce que, alors voilà, il y a Eric, il y a Julien, mais Gérald et Aurélien sont des supporters et également des suiveurs du RCT. Pour vous, à l'heure actuelle, quels sont les leviers à activer dès demain pour changer?
Pour changer quoi, le sportif ou ce qui se passe dans le club?
Pour changer la situation globale.
Seul Bernard Lemaitre est en mesure de prendre ses initiatives. Et pour moi, c'est l'organigramme complet qu'il faut revoir. Je l'ai écrit récemment, j'en rêve. Je veux dire, il faut un directeur général délégué, vous l'appelez comme vous voulez, qui prenne les rênes à côté de monsieur Bernard Lemaitre ou juste en dessous et qui reprenne tout à zéro et qui remette tout à plat. Je veux dire, dans tous les services. Aujourd'hui, on a un campus avec je ne sais combien de personnel. Quand on voit le résultat de la com, on se pose quand même des questions. Qui fait quoi? Et tu disais à demi-mot, Hugo, que nous avions des community managers jeunes, etc. Peut-être qu'il en faut qu'un, mais d'expérience, par exemple, hein, je veux dire, entre autres, à différents postes. J'en sais rien. Après, c'est pas à moi à faire le bilan de tout ça. Hein. Mais ce que je comprends pas, c'est le silence assourdissant de M. Bernard.
Ah oui, c'est sûr.
Je veux dire. Et en plus, on va se le dire, on est Toulonnais, quoi. Et pour nous, un Toulonnais qui parle pas, c'est un Toulonnais qui est mort.
Oui, alors attention à ce que tu dis. Sans non, mais, le mettre, ça peut être
c'est symbolique. Non, mais qu'il soit jeune ou qu'il soit âgé, peu importe, c'est pas possible, c'est pas concevable. Surtout à ce poste-là, c'est pas concevable.
Et moi, pour te répondre, Hugo, je pense que la première des choses, ça serait de faire preuve de beaucoup plus d'honnêteté et de transparence. Je pense que ce qui, moi, en tout cas, me fait péter un câble, et je pense que si tu écoutes les causeries, tu le sais, ouais. C'est que Pierre Mignoni préfère aujourd'hui faire des petites piques en conférence de presse plutôt que de nous dire la vérité. Parce que Toulon, c'est un village, et même toi qui habites loin de Toulon, je suis persuadé que tu entends aussi des choses. Bien on sûr. Sait très bien qu'aujourd'hui, si on en est là, c'est qu'on a des joueurs qui n'ont pas forcément l'exemplarité attendue, qui n'ont pas peut-être la vie d'athlète de haut niveau attendue. Ouais. Et en plus, ça veut dire aussi qu'on a sûrement un staff qui s'est trompé. Je veux dire, si on a des joueurs qui, en mars, n'arrivent pas à enchaîner 4 passes, c'est qu'on s'est trompé à un moment aussi dans les choix tactiques ou dans le choix des joueurs. Donc, moi, ce que je voudrais déjà, et je pense que ça aurait retirer beaucoup de colère, c'est d'avoir un Pierre Mignoni qui fasse amende honorable et qui, plutôt que de tirer sur des journalistes ou sur les supporters, dise « On s'est planté, on reconnaît, voici nos erreurs, les joueurs qui trichent, je vous promets qu'à la fin de la saison, je les sors. » Je te promets que déjà, ça aurait changé beaucoup de choses dans la perception. Plutôt que d'essayer de couvrir à tout prix les mecs, en fait, tu vois. Et ça, je pense que ça crée beaucoup de colère.
Oui, je pense qu'on nous infantilise, le club nous infantilise, on nous prend pour des gamins, on nous prend pour des lapins nés de 3 semaines. Et là où j'ai la colère, Hugo, et tu le sais, c'est des sujets sur lesquels on s'est un peu attrapé, c'est que, je veux dire, on souhaiterait, enfin le club souhaiterait qu'on soit là à acheter nos places, acheter nos petits goodies, ouais. À acheter nos abonnements bien sagement, et puis surtout fermer nos gueules, quoi. Et puis si on n'est pas content, c'est pareil, c'est pas possible. Enfin, en tous les cas, c'est pas ma vision du club, et encore moins de Toulon, enfin, c'est encore moins de Toulon, c'est pas possible.
Bah, en fait, il faut juste accepter des fois que les supporters, ils ont plus envie de supporter, quoi.
Ah ben complètement, c'est mon... tu fais c'est ce le geste en fait. D'aujourd'hui. Je rappelle quand même exactement. Que ma petite vidéo, elle est sincère. C'est-à-dire que c'est réellement un abonnement de 30 ans. Hein. Le club le sait, il peut vérifier. Et je ne le renouvellerai pas. Alors bon, rien ne dit, je n'ai pas dit que c'était éternel. Mais en tous les cas, pour la saison prochaine, il n'est pas question que je renouvelle cet abonnement. Et ce n'est pas parce qu'on voit de la daube sur les matchs de Mayol. Parce que j'ai connu des périodes de Pro D2 où on était 5000 dans le stade et on ne voyait pas des grandes envolées sportives.
La saoule.
Oui, exactement.
C'est-à-dire que
ne mélangeons pas tout.
Aujourd'hui, au-delà des résultats sportifs, il y a une partie des supporters qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'est devenu le rugby club toulonnais et ce qu'il va peut-être exactement. Devenir demain si on ne se mobilise pas. Quoi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que être dans les 6 ou être pas dans les 6 à la fin de la saison, je ne vais pas dire que je m'en fous, je ne vais pas dire comme Pierre Mignoni, mais concrètement, moi aujourd'hui, je préfère qu'on ne soit peut-être pas dans les 6 à la fin de la saison. Mais par contre, notre club redevienne le rugby club toulonnais dans lequel quoi. On s'identifie ouais. de nouveau, voilà, qui est du ménage, dans lequel on s'identifie, que Mayol redevienne le Mayol que moi, mon père m'a légué quand j'étais gamin. Voilà, on faisait pas des kiss-cam et on faisait pas des karaokés géants. Hein. Enfin, moi, je sais pas, mais c'est pas comme ça qu'on m'a fait découvrir Mayol. Donc, je crois que voilà, il y a du ménage peut-être à faire en effet au rugby club toulonnais pour qu'on arrive de nouveau à s'identifier dans ce club.
On a oublié.
Et toi, tout à l'heure, Julien, tu disais que tes adhérents et tout, parmi les supporters, il y avait de la grogne, il y avait des mecs qui n'étaient pas contents et tout ça. Là, il y a Eric qui a coupé sa carte. Tu sens, toi, qu'il y a des mecs qui te disent, au fils de Besagne, moi, l'année prochaine, c'est fini ?
T'en as beaucoup ? Les premiers retours sont... oui, j'en ai beaucoup, je n'arrive pas à le chiffrer. Ce qui est certain, c'est que c'est la fin des abonnements 5 ans, surtout, tu vois. Et pour ce qui est des fils de Besagne, moi, je j'ai pas de honte, hein, je me cache pas sur les chiffres, j'ai 400 abonnés, hein, stade, aux fils de Besagne. Et moi, j'en ai 50% qui sont abonnés 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il y en a 200 qui, depuis 5 ans, se réabonnent automatiquement. Et ben, certains vont se poser des questions. J'ai très peur d'en perdre. Oui, j'en ai qui me l'ont dit, très clairement. J'ai aussi des gens qui ne viennent déjà plus à Mayol, qui ont payé un abonnement, mais qui ne viennent plus. Je pense que la prochaine campagne de vente va être très, très compliquée. J'espère que le RCT va ne pas aussi avoir la mauvaise idée, en plus de ça, d'envoyer un mauvais signal tarifaire. Parce qu'on est à l'abri de rien. Parce que vous savez qu'avec ces gens-là, il faut être surpris de rien et à l'abri de rien. C'est-à-dire qu'ils peuvent, en plus de ça, décider qu'ils vont augmenter les prix des abonnements. Hein, parce que franchement, voilà, moi, j'ai appris alors avec ces gens-là, j'ai appris à ne plus être surpris de rien.
Ça m'amène à une question aussi, c'est, et peut-être je vais commencer par, ça elle est ouverte, remarquez, mais comment est-ce qu'on reste finalement un supporter impliqué et amoureux de son club quand on ressent plus du tout de joie à supporter ? J'ai presque l'impression, parce que j'ai vu sur Twitter ces derniers jours, les mecs étaient soulagés qu'on n'ait pas de match ce week-end.
On coupe sa carte.
désolé.
Et les gens vont quitter Mayol.
On coupe ça, Hugo, toi. Est-ce que tu arrives encore à trouver du bonheur à supporter Toulon? Où est-ce que tu le trouves, le bonheur?
Moi, je trouve mon bonheur dans le regard de mon fils. C'est peut-être bateau, mais quand tu partages ça avec ton fils, et de voir le petit comme ça, heureux de rencontrer les joueurs, de voir les joueurs. Après, il y a une réalité. Moi, j'étais au Racing dimanche. J'ai invité mon oncle et mon cousin, premier match de rugby. Les pauvres, ils n'ont pas forcément envie de revenir. J'ai mon fils qui a vu deux matchs cette saison, qui me dit « Papa, à chaque fois qu'on y va, on ne gagne pas un match. » Je lui dis « Écoute, ça arrive. » Donc, moi, je vis ça avec mon fils, donc je le vis avec beaucoup de plaisir. Mais même si je ne le montre pas au niveau du cœur, vous me voyez actif sur les réseaux sociaux et tout, moi, de voir l'état actuel du club, de voir aussi les résultats. Les résultats m'impactent parce que on parle beaucoup de la sortie de Mignoni sur le top 6, on s'en fout, etc. Ça, c'est foutaise parce que rappelez-vous des propos en début de saison, c'était top 6,
bien
non
sûr,
négligeable.
Bien sûr, mais bien sûr.
Donc, je ne le traduis pas avec excès, j'ai envie de dire. Mais bien évidemment, c'est compliqué. Les semaines sont compliquées. Là, de dire qu'il n'y a pas le RCT ce week-end, c'est vrai que ça permet, moi qui étais au Racing, ça permet de dire bon, écoute, on va avoir un peu un autre rugby, on va faire autre chose. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, même ceux qui ne le disent pas. J'en suis même persuadé.
Eric, Gérald, Julien, vous sentez finalement c'est votre passion qui baisse?
Oui, complètement.
Mesure.
Et puis c'est.
Est-ce que ça peut revenir aussi ou pas?
Ce qui serait le pire, on se le répète entre nous en boucle, ce qui serait le pire, c'est l'indifférence. C'est que Toulon est un club chaud bouillant. Effectivement, comme le dit Hugo, souvent dans des extrêmes, qui exagère beaucoup les choses, etc. Bon, ça va pas revenir sur tous ces paramètres-là. Mais le pire de tout serait l'indifférence. Je veux dire, si tout le monde commence à s'en foutre. Parce que, attention, ne nous prenons pas non plus pour ce que nous ne sommes pas. Toulon, c'est pas non plus, je veux dire, un bassin de supporters, de milliers de supporters. On a un nombre effectivement très vite qui peut se mobiliser, mais ça peut se démobiliser aussi très vite. Le noyau est pas énorme, hein, et on parlait des abonnés tout à l'heure. Je rappelle quand même que ma carte découpée est aussi une carte abonnée 5 ans, hein, donc qui se termine cette année. Je reste persuadé qu'effectivement la moitié des abonnés 5 ans ne renouvelleront pas cette année, hein, je veux dire, c'est sûr. Et effectivement, le pire de tout pour moi, c'est le manque d'émotion. Je regarde les matchs, même si je les regarde à la télé pour le Racing, et là presque j'en étais à aller me coucher 10 minutes avant la fin. Il se trouve que je serai absent pour le match de Montpellier, ce qui est exceptionnel. Même mon épouse est surprise, parce qu'il y a quelques années j'aurais calqué le moindre déplacement ou le moindre repas de famille sur les matchs du RCT.
Il y a Louis maintenant... surtout, Eric.
Pardon ?
Tu vas louper Louis, quoi.
Oui, oui, je sais. Je sais tout ça. Et Bernard Laporte, etc. ouais, non, enfin,
et Mourad.
Non, mais ça revient à mon histoire du petit buzz de la vidéo de la carte. C'est que ça me fait mal aux tripes, tout ça, en fait. On en rigole, mais ça me fait mal aux tripes. Je suis l'année dernière venu à Mayol avec le maillot de Montpellier, avec marqué Louis Carbonel derrière. Pour ceux qui me suivent, ils ont probablement vu cette photo. Je veux dire, parce que pour moi, c'est un déchirement, cette histoire de Louis Carbonel, et je ne m'en remettrai pas. Et tout ça, mis bout à bout, fait qu'on en arrive là, quoi. Je veux dire, c'est tout.
C'était ce qu'on disait souvent.
Sur ce que vous dites depuis tout à l'heure, les gars, en fait, c'est que tous les arguments que vous donnez pour le fait qu'aujourd'hui, il y a un désamour pour le RCT, ou en tout cas pour cette direction-là, on va le dire plutôt comme ça, hein, le RCT d'aujourd'hui, parce que le RCT, dans 20 ans, on sera tous encore supporters du RCT. C'est en nous, c'est comme ça. Il n'y a pas de, on décide pas là. Hein, on fait pas comme si on allait décider. On aura toujours mal au bide si le RCT perd. Mais en fait, tout ce que vous dites comme argument, j'ai l'impression que ce sont des arguments, même si on a toujours la même direction, mais qui sont des décisions post-Mignoni. Et ce qui se passe aujourd'hui au club, par exemple. Alors là, on a parlé du cas de Vaux. Et on a parlé un peu du cas Coulon en disant mais pour comment ça se fait que ce gars on l'a pas blindé avant, et c'est vrai, on se demande encore pourquoi on l'a pas blindé. Là aujourd'hui, concrètement au club aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites tiens, depuis que Mignoni a repris, est arrivé, il y a des choses qui vont mieux, ou vraiment vous voyez aucune différence et c'est exactement la même chose qu'avant?
Non, c'est une bonne question parce que y a des points qu'on n'a pas abordés parce qu'il y en aurait tellement. On n'a pas parlé de tout à l'heure du début de Bernard Lemaitre, etc., avec tout ce qui concerne le métaverse et toutes ces choses-là qui parce que je veux dire, ça peut paraître anodin, mais ça a aussi plombé le relationnel. Je veux dire, le public toulonnais n'est pas prêt à entendre parler. Le public toulonnais est un public populaire dans le sens noble du terme. Il n'est pas prêt à entendre parler son club de toutes ces, j'allais dire, conneries, j'oserais pas dire. Certainement me reprendre, mais
vu où en est le métaverse
aujourd'hui, voilà, je pense que même les spécialistes vont me dire que c'était une connerie, le métaverse et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, le Hall of Fame, on en parle du Hall of Fame, c'est passé où ? Toutes ces erreurs de com. Alors, qu'est-ce qu'on fait du Hall of Fame cette année là ? Parce que personne n'en parle. On est au mois de mars, c'est le mois prochain le Hall of Fame là. On n'en parle plus.
Je dirais aussi.
On en parle. On parle du traumatisme des joueurs
et qui ont joué la Pro D2,
qui n'ont jamais été invités. Et combien ça a coûté ? Je veux dire, et tout ce qui s'ensuit, parce que si je me permets, parce que je pense que Gérald voulait une liste non exhaustive, hein, on peut en rajouter.
Ouais, c'est très bien, c'est très bien.
Le merchandising, on en parle des pots de moutarde, etc. On a même droit à une banderole sur le sujet. Je veux dire, à un moment donné, c'était. Donc tout ça, parce que je vais revenir à ta question initiale, tout ça, il faut t'avouer quand même qu'il y a eu un effort de fait, enfin, par la force des choses, hein, parce qu'Aurélien va me dire le métaverse, évidemment, qu'ils l'ont enterré, puisque ça a coûté une blende, mais que ça n'a strictement rien rapporté, que c'était une erreur monumentale. Et comme dirait Julien, si on nous avait écouté encore une fois depuis le début, on n'aurait pas perdu ni du temps ni de l'argent, je veux dire. Mais personne n'écoute personne dans ce club, hein. Ils sont persuadés de détenir la vérité absolue, je veux dire. Ils sont dans leur bureau et surtout pas écouter les conneries qu'ils peuvent raconter les supporters, on s'en fout. Donc je veux dire, le merchandising, le métaverse, le Hall of Fame et toutes ces conneries-là, on en est où de tout ça ? On fait un bilan ? Et est-ce qu'à un moment on nous donne des comptes ? Est-ce qu'à un moment on nous fait un bilan ? Alors des comptes, on va me répondre qu'on n'a pas à me donner de comptes, mais je veux dire, la moindre des choses dans l'honnêteté intellectuelle serait de donner des résultats de toutes ces choses-là. On en fait quoi ? Il croit quoi ? Qu'on a oublié ? Il pense qu'on a oublié, qu'on est des neuneux et qu'on ne sait pas de quoi on parle. Mais moi, tout ça, c'est noté dans ma tête. J'attends des réponses à toutes ces questions. Alors, il est vrai que depuis que Pierre Mignoni est arrivé, et l'avantage de ces réunions-là, c'est que ça a un peu mis tout ça sous le tapis, mais aussi par la force des choses, parce qu'on s'est rendu compte que ça a coûté une blinde, mais que ça ne rapportait pas un rond. Et M. Bernard Lemaitre, à un moment, il doit en avoir marre de rajouter 10 millions tous les ans. Parce que quand on vient me dire que c'est formidable, puisque M. Bernard Lemaitre rajoute 10 millions tous les ans, je dis non, c'est une catastrophe, parce que s'il gérait correctement, il ne rajouterait pas 10 millions tous les ans. Si je gérais mon entreprise comme ça, ça fait longtemps que je ne serais plus là.
C'est sûr que si le club vivait dans l'économie réelle, comme disait Mourad Boudjelal à l'époque, Mourad ne pouvait pas se permettre d'avoir 10 millions de trous à combler chaque année. Je veux dire, il a déjà comblé quelques trous de temps en temps, mais jamais des sommes pareilles. Et à un moment, si on a un trou de 10 millions d'euros en fin de saison chaque année, c'est parce qu'on a bien voulu. Donc ça, c'est...
En tous les cas,
je pense que dans ce que tu dis, Eric, aussi, dans le fait que les supporters ne sont pas... Ouais. Non, mais dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que les supporters aujourd'hui sont plus considérés comme des clients que comme une partie intégrante. Et moi, ça me refait toujours penser à cette déclaration de Mourad Boudjelal qu'il avait sortie quand il y avait eu le cas Colazo. Il avait dit « Un supporter paye pour supporter son équipe et un entraîneur est payé pour entraîner une équipe. L'un est là pour la vie, le supporter, et l'autre est là pour un contrat. Et celui qui est là pour un contrat doit respecter la passion de celui qui est là à vie. » Et ça, c'est un truc très important pour moi. Ça, il faudrait que Pierre Mignoni, Laurent Emmanuelli, etc., ces gens-là réentendent ces phrases-là. C'est qu'à un moment donné, ils ne sont là que de passage pour faire leur job. Et si leur job est mal fait, la moindre des choses, d'abord, c'est de s'expliquer, quoi, tu vois, plutôt qu'envoyer chier tout le monde,
jamais,
si je peux me permettre.
Je reste persuadé que Pierre Mignoni est conscient de ça.
Eric, tu disais ?
Je disais que je reste persuadé que Pierre Mignoni est bien conscient de ça, mais c'est pas lui qui a la main sur ces choses-là.
Bien sûr, il faut arrêter de l'envoyer au charbon sur ces sujets, quoi.
Mais ceci étant dit, il a d'autres soucis, et bon, je veux dire, quand il a un souci dans son vestiaire, c'est pas en insultant un journaliste qu'il règle le souci dans son vestiaire non plus.
Il est extrêmement nerveux, ça se voit, on le débrief souvent quand on fait les causeries, on dit à chaque fois en conférence de presse, tu vois bien qu'il est sous tension, qu'il est prêt à exploser, mais je trouve ça juste un peu dommage effectivement que les supporters soient régulièrement pris pour cible, parce que je pense qu'on se trompe de combat. Voilà, je pense que si aujourd'hui tu as des supporters qui sont en colère, ces supporters-là, et je pense que vous en faites partie, prennent pas plaisir à être en colère. C'est juste que finalement, ils ne se reconnaissent plus dans ce club, et le plus terrible, finalement, c'est de tourner les talons et de s'en aller. Le jour où tu n'es plus en colère et que tu t'en fous, parce que tu disais, Gérald, un truc, tu as dit, dans 40 ans, on sera toujours là, on supportera toujours ce club. Je te dis non, attention. Il y a plein de supporters qui tournent les talons. Certains, moi, j'ai parlé de Jean-Jacques Gay la fois dernière, mais c'est un exemple parmi des tonnes. Il y a énormément de supporters qui ont fini par être dégoûtés.
Non, bah, ouais, mais ils reviendront si la direction change et s'ils sentent que le club redevient ce qu'ils aiment. Oui. En fait, t'es amoureux d'un club, t'aimes ton club, et puis au début, tu peux avoir un désamour sur une direction et attendre que une direction s'en va parce que comme on l'a dit, c'est bourré de mecs d'écoles de commerce qui ont des pages LinkedIn longs comme le bras et qui ont plein de références et qui comprennent rien peut-être déjà au rugby et peut-être aussi à la culture toulonnaise, et ça nous gonfle en fait. Donc si ces gens-là partent et si quelqu'un arrive après et que il y a une identité, eh ben les mecs qui sont partis reviendront parce que c'est Toulon, ils ont ça en eux quoi.
Ça revient à ce que disait Hugo tout à l'heure. Il y a différentes façons de supporter. C'est-à-dire que je continuerai à être supporter devant ma télé, mais est-ce que c'est vraiment un supporter quand on reste devant sa télé?
Oui, parce que c'est un acte fort aussi. Oui. C'est un acte fort, c'est se dire, ben moi, je ne me reconnais pas dans ce Mayol-là, je ne me reconnais pas dans ce Toulon-là, mais ça sera quand même Toulon, tu l'as quand même en toi, et puis tu
c'est
puis
effectivement,
ça viendra avec d'autres gens.
C'est effectivement la situation dans laquelle je suis aujourd'hui.
Julien, ouais, quand on est président d'un club de supporters, est-ce que c'est compliqué de devoir prendre sur soi, fermer sa gueule, si je puis dire? Parce que j'imagine que je sais que tu es un supporter extrêmement impliqué, qui a le RCT au plus profond de son cœur, mais que de par ton rôle, tu peux peut-être pas tout dire. Comment on gère ça, finalement?
Ouais, c'est compliqué parce que il faut déjà arriver à scinder ce que Julien Perper pense et ce que le président des Fils de Bedagne pense, puisqu'il y a toujours cette... Je suis toujours habité en me disant ce que je dis, est-ce que je représente la parole de mes adhérents. Donc déjà, il y a un gros travail de discussion qui est fait avec nos adhérents, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent. Je précise d'ailleurs qu'on a organisé un temps d'échange il y a 10 jours, après la défaite à Pau, pour un peu prendre la température. Mais oui, c'est pas facile parce que voilà, j'ai aussi des adhérents qui ont le profil un peu d'Hugo, qui ont envie aussi d'y croire et je peux pas non plus leur saper le moral. Moi, mon expérience aujourd'hui fait que je pense que la direction du club nous mène dans un mur. Malgré tout, j'ai des adhérents qui ont envie de continuer à se déplacer, qui ont envie de continuer à animer le stade, à chanter, à crier, à encourager l'équipe. Et donc voilà, je me dois d'être au rendez-vous pour ces gens-là. Après, je vous cache pas que la situation elle reste usante, fatigante, parce que quand ça fait 5 ans, 6 ans que vous vous battez par des communiqués, par des prises de parole, que ce soit en réunion, au public ou pas, ça use, et je me pose clairement la question de est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça longtemps, et je pense que non d'ailleurs. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas simple tous les jours, mais on est une asso de 500 personnes et il faut que les Fils de Bedagne continuent d'avancer.
Donc du coup, oui, tu nous dis là que tu commences à arriver un peu à bout et que si le club ne change pas de direction et ne se reprend pas, tu pourrais faire comme Eric à un moment et dire ras-le-bol, quoi.
Oui, mais je pense que si je m'en vais, le RCT se frottera les mains et me dira « Tiens, casse-couille de moins, là, au milieu. Hein. » Donc, je pense qu'ils sortiront peut-être le champagne le jour où je vais m'en aller.
Ouais, pareil. Donc,
voilà, suite mais oui, ma oui vidéo, bien sûr, le jour où je quitterai la présidence des Fils de Bedagne, pas à l'abri que je quitte Mayol également. Là aussi, temporairement.
Ah ouais, complètement.
Non, mais aujourd'hui, je peux pas savoir ce que je ferai dans 10 ans. Mais aujourd'hui, franchement, moi aussi, je prends de moins en moins de plaisir à aller à Mayol. Le seul truc, finalement, qui me retient un peu, c'est mes adhérents, c'est l'échange avec mes adhérents, c'est le côté humain qu'il y a dans notre association qui me fait tenir, quoi. Parce que je peux vous dire que quand vous allez à Pau et que vous faites 15 heures de minibus dans le week-end, il faut être un peu fatigué quand même pour faire ça. Hein.
Et est-ce que nous on a parlé tout à l'heure d'une cassure avec je vais vous poser une question, vous allez rigoler, mais parce qu'on a eu une vidéo aussi tout à l'heure, t'en as peut-être parlé tout à l'heure Aurélien, de la vidéo de Matthew qui est arrivée aussi cette semaine.
Non,
est-ce
que
tout à l'heure on a parlé d'une cassure avec le fait du départ de Louis Carbonel, le retour de Louis Carbonel, ça vous ranime un truc vous?
Bah, je sais pas si ça ranime.
Est-ce que vous
le
pensez
problème,
que c'est si important que ça chez les supporters?
Oui.
Toi
oui,
Julien, si tes abonnés c'est très important Carbonel.
En tout cas, c'est à l'origine d'une fracture. Voilà, une supplémentaire. C'est à l'origine d'une fracture, donc on résolverait ça quand même. Voilà, le problème avec Eric qu'on a, c'est que, alors peut-être qu'on n'est pas objectif là-dessus, parce que nous, les minots, on vibre avec eux, on crabosse, on espoir, et quand on voit comment ils sont traités après quand ils passent chez les pros, c'est vrai que ça nous fait un peu mal au cœur. Mais Louis Carbonel, enfin voilà, je veux dire, je vais pas trahir de secret en disant que j'échange très régulièrement avec lui, qu'il a le rugby club toulonnais chevillé au corps. Quand je lui envoie un texto le lundi matin, comment tu vas, il me demande pas s'il a fait un bon match avec Montpellier, il me parle du match du RCT. Semineau aime le rugby club toulonnais. Ça, il va falloir que les gens le comprennent aussi, parce que ce que j'ai lu sur lui ces derniers mois, c'est insupportable. Il aime ce club, même s'il a peut-être fait des choses qu'il fallait pas faire, il a fait pour le rugby club toulonnais. C'est-à-dire, quand on connaît l'histoire qu'il a, ne serait-ce que familiale avec son père et le rugby club toulonnais, je veux dire, il y a un moment donné, c'est insupportable, inconcevable de voir des supporters toulonnais, pour moi, lui cracher dessus. Quoi. Ça, c'est inconcevable.
Qui ne le fait pas son retour
Bah, il y a des gens sur les dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Vous voyez,
au club,
je pense que c'est pas un secret de dire qu'aujourd'hui il est quand même parti sur une volonté de Bernard Lemaître. Donc est-ce que Bernard Lemaître a passé l'éponge aujourd'hui
et d'Emmanueli j'ai pas la réponse.
Et d'Emmanueli. Est-ce qu'Emmanueli a passé l'éponge? J'en sais rien non plus. Donc voilà, aujourd'hui le retour de Louis Carbonel, bien sûr, ça serait quelque chose de positif.
Au-delà du retour de Louis Carbonel, qui évidemment serait un truc extraordinaire, mais je veux dire, il y aurait eu, parce que je considère que maintenant c'est un peu tard et que ça va être compliqué, mais il y avait moyen de réduire un petit peu la fracture et de faire une forme de mea culpa. On a tendu la perche plusieurs fois, hein, il y a eu un moment où, quand le retour d'Azema, au départ de Colazo, etc., il y a eu une fenêtre qui s'est ouverte, clairement, où il y a eu une pétition avec 5000 signatures sur le bureau de M. Bernard Lemaître, etc. Il y avait la possibilité de le faire, et par fierté, on ne l'a pas fait. Il y a eu encore une deuxième fenêtre, là, en début d'année, avec l'arrivée de Colazo, Mokoudi, etc. On n'a encore pas saisi. Hein. Bon, je veux dire, je précise que je n'ai rien contre Garbizi, mais ce n'est pas lui qu'on voulait. Je veux dire, clairement, ce pauvre Minot, il va débarquer ici, il se demande ce qu'il vient faire. Ce n'était pas lui qu'on souhaitait, lui ne souhaitait pas venir, donc bon, ça part très mal, l'histoire. Mais ça aurait, au-delà du retour du Minot, ça aurait en plus fait une forme de mea culpa.
Pour une fois. Après, il faut juste préciser, Eric, faut quand même bien se dire aussi que là, sur le coup là, avec Garbizi, on a Carbonel, ni Carbonel ni le club ne décident, quoi, en fait. Je pense que si Toulon pouvait faire signer, alors peut-être, que je me trompe, hein, mais j'imagine que si Toulon pouvait faire signer Carbonel là,
et la porte à lui sur les tours.
Non. Sauf qu'en fait,
je suis persuadé que non, que les arrangements auraient pu être trouvés. Je rappelle quand même que c'est Bernard Laporte qui est à Montpellier et que si on a réussi à faire venir Garbizi, à enlever Tolofua, à le faire partir en contrat, etc. Alors on nous bassine toute la journée en nous expliquant qu'on ne peut pas retenir un joueur qui n'a plus envie de rester malgré son contrat, mais sauf pour lui Carbonel, sauf lui.
Non, mais il n'y a que Toulon qui fait ça. Hein.
Non, mais je
veux
dire.
Toulon qui libère les mecs, hein,
en milieu de
saison. Ça existe dans les autres clubs.
Alors, on est encore plus con que la moyenne, quoi.
Ah, bah là-dessus, oui, sur ce point-là, je te confirme.
Ouais, non, mais voilà.
Sur ce point-là, c'est confirmé, hein. Il n'y a que nous qui, quand le mec, il tape à la porte, il dit je veux partir, il part, hein. Parce que dans les autres clubs, ça ne se passe pas vraiment comme ça, en fait.
Vous êtes encore en train d'imaginer la possibilité d'avoir Louis Carbonel plus Garbizi, c'est ça? Et vous pensez que Bernard Laporte est assez bête pour lâcher Louis Carbonel et Garbizi en même temps, la même saison?
Après, Eric, s'il est dispo en 2025...
Moi, je pense que Carbonel, c'est mort. Hein. Moi, je pense
mais
que Carbonel,
sûr,
c'est mort.
Mais bien sûr que c'est mort.
Non, mais attention, si Carbo est dispo en 2025, si il ne vient pas, c'est que le RCT n'en veut pas. Là, le message, il est clair, vu qu'il est...
Non, mais parce que tu doutes encore que le RCT veuille le faire revenir.
Ah, c'était ma question. C'est qui n'en veut pas.
Moi,
c'est
évident. S'ils avaient voulu, ils seraient là.
Après, ils ont peut-être pas voulu mettre le paquet d'oseille nécessaire sur pour le faire revenir.
C'est comme Bruce Deveau, je veux dire, on va me raconter. Ouais. J'attends là, parce que j'attends les retours de bâton. Hein, là, on va nous expliquer qu'il a été gourmand et tout ce genre de conneries. Évidemment que probablement que le Minot a un agent, probablement que le Minot a discuté son bout de gras, et c'est normal, hein, je veux dire. Mais je veux dire, si j'avais un choix à faire, quel que soit le choix à faire, je respecte le Minot, c'est tout. On va pas rentrer dans les détails du poste, on m'explique le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Pour moi, en termes de niveau, les trois sont au même niveau, je veux dire. Et puis s'il fallait s'en séparer d'un, c'était pas de Bruce Deveau que je me séparais. Hein.
Et puis encore une fois, quand ton projet, c'est la formation toulonnaise, eh ben, on fait peut-être un effort sur lui quand même, je sais pas, puisque c'est soi-disant notre projet.
Oui, bien sûr, pour Deveau, il n'y a pas de problème. Bien sûr.
Mais ce qui est bizarre, c'est que tout était bouclé. Tout était quasi bouclé. C'est ça qui est fou.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que tout est quasi bouclé, sauf qu'il se passe quelque chose entre le moment où il y a l'accord oral et le moment où on doit signer le contrat. Voilà. Et ça n'est pas la première fois que ça se passe. Hein.
Et qui part plus quand même, parce que Priso, il a annoncé sur le départ. Finalement, c'est démenti. Et je pense qu'on lui promettait surtout aussi un poste de numéro 2. Et je pense que là, quand il a compris que Priso finalement partait pas, ça a été un peu.
Ouais, parce qu'il y a. Il y a une première mèche qui est allumée avec, rappelez-vous, en novembre, je crois, en octobre, je ne sais plus, où Devaux fait un post Instagram où il met le nez de menteur, et je ne sais plus quoi, enfin, dit qu'on l'a pris pour une truffe. Et on s'est dit, oulala, en fait, il va partir. Finalement, on nous annonce 2 mois après que non, il ne va pas partir, il va re-signer. Et puis finalement, bon, non, mais rien de dire. Donc,
dans tout ça.
C'est-à-dire qu'il y a eu plein de changements entre-temps. Quoi,
non, mais il y a de l'amateurisme dans tout ça. Je veux dire, je n'entends pas toutes ces histoires au Stade Toulousain. Il faut arrêter. C'est pas sur un cas, parce que je voudrais bien qu'il puisse y avoir un loupé sur un cas, mais c'est régulier, on ne sait jamais où on en est. Le Tolofua, personne ne l'a vu venir, même pas les gens qui s'occupent de la com' n'étaient au courant. Enfin, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux.
Non, c'est pas sérieux.
On est le 3e club de France, sérieusement, en termes de budget, là ? Bon, les gars, Bernard Lemaître, il accepte ça, mais moi, je suis chef d'entreprise, mais je vire tout le monde. Comment c'est possible, ça ?
Et où est le directeur sportif ?
Bien sûr.
Où est le directeur sportif ?
Alors, bien sûr.
C'est vrai que je pense que tout le monde profite, le système profite d'avoir un président qui a l'air d'être très peu présent. En tout cas, médiatiquement, il est complètement absent. Il a l'âge qu'il a, on peut dire que c'est son problème. Mais en attendant, visiblement, il n'est pas particulièrement actif sur les grosses décisions. Là, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y a quelqu'un sur Twitter aujourd'hui qui a dit « Mourad Boudjelal, à sa place, ça fait 35 fois qu'il aurait dégagé tout le monde. » Et Mourad a liké ce tweet. Façon de dire « Oui, oui, j'aurais jamais accepté une situation pareille. Moi, je ne comprends pas. » Aujourd'hui, on soit toujours dans ce même merdier. Ça fait des semaines qu'on s'enfonce. Et aujourd'hui, Hugo,
des années.
Non, mais je parle vraiment sur la saison en cours, où à un moment, il y a eu un espoir de se dire, tiens, peut-être que cette année, c'est la bonne. Et puis, on voit que non. Ce qui m'inquiète un peu, moi, finalement, quand on fait le bilan de la colère des supporters envers le club, c'est qu'en fait, elle est multidimensionnelle, quoi. Il n'y a pas juste un sujet. C'est sportif, c'est sportif. C'est la communication du staff, c'est la communication du marketing, c'est les jeunes. En fait, là, ce qui est très inquiétant quand je vous écoute, c'est qu'on se rend compte qu'il y a tout un ensemble de fonctionnement du club qui aujourd'hui marche un peu sur la tête pour une bonne partie de ses supporters.
Complètement.
Donc, c'est le plus inquiétant. C'est-à-dire que c'est même ça, tu vois, Hugo disait tout à l'heure, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on change ? Mais en fait, il y a tellement de problèmes à tellement d'étages que tu vas pas pouvoir avoir une solution et dire s'il se passe ça, c'est OK. En fait, comme tu dis, sportivement, bon, ça c'est l'instant T. Enfin, même si ça fait 6 ans qu'on n'est pas dans le top 6, que je considère qu'on n'y sera pas cette année. Mais c'est même pas ça. Eric disait tout à l'heure, il a raison. C'est même pas ça le plus important. C'est tout ce qui se passe autour qui nous gonfle. Mais il y a ça, plus le sportif qui ne nous va pas, plus ce qui se passe à Mayol, plus la direction, plus comment on gère les jeunes. Et en fait, tout ça, bout à bout, tu n'auras jamais une solution pour régler un problème. C'est que le problème, il est tellement vaste, il touche à tellement de choses que…
Il y a des solutions qui peuvent être rapidement mises en œuvre quand même, si on en a la volonté quand même. Voilà. Je vais prendre l'exemple de Mayol, de la culture de notre club… C'est assez facile à mettre en place quand même. La communication, c'est pas très compliqué non plus à mettre en place. Faire un mea culpa et tendre la main aux supporters, c'est pas compliqué non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volonté surtout. C'est ça qui est le plus inquiétant. Moi, la lettre ouverte là, qui a été publiée aujourd'hui, elle est piquante hein, quand même. Plus piquante que des fois les communiqués fils de besogne qu'on aurait pu faire. Mais ce qui me. Je trouve que cette lettre ouverte, elle est bien parce qu'elle cible tous les points qui ne vont pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une direction de club qui ait envie que ça change. Aujourd'hui, est-ce que la direction du club a envie que ça change ? J'ai pas ce sentiment-là, quoi. C'est ça qui est inquiétant.
Pour autant, je peux pas croire et penser une seconde que Bernard Lemaître se satisfasse de ses résultats. C'est pas possible. Oui. De ses résultats, oui, je parle au sens large, pas que sportif. Hein.
Qu'est-ce qui est fait pour que ça change ? Quels sont les signaux envoyés, Eric ?
Je pense que Bernard Lemaître n'a aujourd'hui ni l'énergie ni les réseaux pour tout changer. Et on verra. Je veux pas, mais je pense qu'on pourrait assister à son départ en fin de saison. Parce que je pense qu'aujourd'hui, à 85 ans ou 86 ans, et il n'aura pas envie de réécrire une histoire de zéro, parce que tu sais que si tu vires tout le monde, tu repars pour au moins 5 années, il ne le fera pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas les réseaux. Il a fait confiance à un Toulonnais à l'époque, Colazo, il s'est dit ça va le faire, ça ne l'a pas fait. Il refait confiance à un autre Toulonnais, Mignoni, avec toujours Emmanueli, il se dit maintenant ça va le faire, ça ne le fait toujours pas. Vous voulez qu'il fasse quoi, Bernard Lemaître ? Pour moi, Bernard Lemaître, il n'a pas les solutions. Voilà. Il n'a pas la connaissance et je pense qu'il va laisser la place. Ouais, t'as raison, c'est peut-être la seule solution, mais est-ce qu'à son âge, il a envie de repartir de zéro? C'est là où je suis un peu inquiet. Mais en tout cas, t'as raison, il manque un homme aujourd'hui pour incarner le projet, comme le faisait un Mourad Boudjelal, qui était et président, et directeur général, et tout ce que tu veux, directeur de la com, il faisait tout. Mais au moins, il incarnait le club, voilà.
Et non, aujourd'hui, mais... c'est vrai que... Il a essayé, mais il a essayé avec des CV. On a eu un monsieur Beer, on a eu un monsieur Pesanti, bah oui. Etc. Bon, apparemment, je veux pas critiquer ces messieurs, moi je les connais pas spécialement, mais je veux dire, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Donc je pense qu'il a fait, comme tu disais, je sais plus qui disait tout à l'heure, il a pris son LinkedIn, là, et il a cherché des bons CV, et voilà, mais c'est pas comme ça que ça marche, ouais, ça peut pas marcher comme ça.
On n'est pas le même salaire que monsieur Pesanti, je veux bien aussi, hein, venez me voir sur LinkedIn, si vous voulez.
On n'est pas un club de LinkedIn, là, je sais pas quoi. Non mais je l'ai déjà, hein, mais bon, je sais comment ça marche, je suis chef d'entreprise aussi parallèlement, mais bon, j'arrive au bout. Je peux te dire qu'en tant que chef d'entreprise, ça fait longtemps que ça aurait valsé.
Il va falloir se positionner pour le remplacement de Bernard Lemaitre, Eric. Hein.
Je n'ai pas les moyens, parce qu'il faut rajouter un petit mot quand même, ce monsieur quand même, je veux dire, il faut dire ce qu'il est.
Eh oui.
J'ai une pensée pour lui régulièrement quand même, hein, me disant cet argent qu'il met, je veux dire, c'est...
Régulièrement carrément.
Je vais vous dire la vérité. J'ai eu beaucoup de colère contre ce monsieur au début, particulièrement sur ses déclarations. Depuis, il n'en fait plus des déclarations parce que bon, on nous explique qu'il vaut mieux pas qu'il en fasse. Sinon, il est maladroit ou qu'on interprète. C'est parce que c'est aussi ce qu'on nous dit, que la presse a tendance à sortir.
Oui, c'est la faute à Mathias Merlot.
Bon, ouais, voilà, c'est toujours la faute des autres. Mais au début, donc, il avait effectivement. Mais aujourd'hui, le fait qu'il ne parle pas, etc., enfin, il m'est presque sympathique. Non, mais je suis sincère.
Je suis sincère.
Je compatis avec ce monsieur. Parce que tu disais, effectivement, Aurélien, il n'a peut-être pas de solution. Et je pense aussi qu'il est peut-être coincé dans son truc. Il ne veut peut-être pas partir comme ça sur un échec, entre guillemets, parce qu'on peut considérer quand même que c'est un échec, et sur une image assez négative. Mais d'un autre côté, comment faire, quoi? Je veux dire, c'est compliqué. Et l'argent, ça ne fait pas tout, la preuve. Je veux dire, je ne sais pas. Sérieusement, j'ai une petite sympathie pour M. Bernard Lemaitre.
Je pense qu'on va avoir une indication. C'est-à-dire que pour moi, s'il veut rester actif dans le club dans les années à venir, il va être obligé de faire quelque chose là dans les 2-3 semaines qui viennent. Pour moi, il vire quelqu'un. Il n'a pas le choix. Là, comme tu le disais, Hugo, ça fait la une de RMC Sport. L'image qui est en train d'être renvoyée du RCT, elle est catastrophique. Et je ne peux pas croire que Bernard Lemaitre accepte ça. Donc pour moi, s'il ne fait rien, ça veut dire qu'il a lâché.
Et qu'en fin de saison, il s'en va. Je suis persuadé que rien ne bougera avant l'intersaison.
Je pense aussi.
Bon, enfin, l'intersaison, c'est bientôt. La saison pourrait être très vite terminée, si tout va bien. Et tu parlais tout à l'heure, Aurélien, d'image, et on peut parler aussi derrière l'argent, parce que derrière l'image, il y a l'argent. Je veux dire, les partenaires, des sponsors, ouais. Etc. Quoi, je veux dire, c'est dramatique.
C'est pour ça que pour moi, ça sera un bon indicateur. S'il ne se passe rien, c'est que voilà.
Sans compter qu'en tant que supporter, en plus, on se fait chambrer par la France entière. Mais ça, c'est un détail, mais bon, ça fait chier quand même.
Et on aime bien aussi.
Et petite question, un top 6 pourrait servir de camouflet à la direction, clairement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que supporter, vous espérez accrocher ce top 6 et peut-être avoir un camouflet en disant bah, « Regardez, on y était après tant d'années » ou est-ce que vous espérez, entre guillemets, espérer, c'est toujours dur, hein, mais ne pas se qualifier pour avoir des raisons d'avoir du mouvement derrière?
Tu mets le doigt sur un sujet sensible, ça, pour un supporter. C'est effectivement une question qu'on se pose régulièrement. Est-ce qu'il vaut mieux pas être au fond du seau pour que tout explose, ou est-ce que quand même, malgré tout, parce que c'est un peu comme l'histoire de la petite coupe d'Europe, hein, je veux dire, ça revient au même, c'est qu'on nous vendu ça comme si c'était le truc extraordinaire. On a sauvé une période avec ce trophée. Bon, tant mieux, il est là, il est dans le placard, mais tout le monde s'en fout. Mais ça serait pareil aujourd'hui d'être dans les 6, parce qu'on va nous dire, bah, voyez, l'objectif a été atteint.
Exactement.
Mais ça solutionnerait rien, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, de toute façon.
Voilà, bien c'est compliqué ça, aussi de vouloir la défaite de son club, hein, franchement.
Ah ben oui, complètement.
Moi, j'arrive pas à rentrer dans ce délire-là. Moi, j'avoue que c'est compliqué pour moi.
Des fois, après un match, tu te dis, bah, tu sais quoi, en fait, on ne le méritait pas de le gagner, ce match. Je te dis, bien fait, mais dans l'absolu, bien sûr, que si tu te qualifies, moi, je rêve que de ça, de revoir des phases finales.
Ah oui.
Avant, c'était le rituel tous les ans, quoi.
Je vais vous rassurer, Baptiste Sorin revient. On peut y croire.
Ouais, mais un peu tard.
Ah, le Messi, là.
Ouais, non, mais petit aparté à ce niveau-là. Moi, je suis descendu dans les travées de Mayol après le match du Munster où je suis venu avec mon fils. Et pour revenir sur Baptiste Serin, et vous n'imaginez pas l'impact. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, hein, après cette défaite qui a fait grand bruit, l'impact qu'il a sur les gars et sur le groupe. C'est vraiment la tête
c'est quand même inquiétant parce que si ton équipe elle se repose que seul, sur un joueur, c'est inquiétant. Ouais, j'ai aussi une pensée pour lui qui quand même ne sait toujours pas ce que c'est des phases finales de top 14. Hein, donc j'espère pour lui qu'on sera dans les 6. Quand on voit la qualité
du joueur, c'est... Ouais, bien sûr.
Ah, non, c'est terrible. Bien
sûr. Ouais, d'accord. Parfait. Bah, écoutez, merci messieurs. On a bien débattu et vous voyez, même sans être d'accord, ça s'est fait avec beaucoup de respect. J'espère que tous les présidents de groupes de supporters en prendront de la graine. Vous pouvez débattre avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord sans les insulter. Donc, merci messieurs d'avoir joué le jeu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, écoutez, vu comme c'est parti, je ne serais pas étonné qu'on ait l'occasion de faire une autre émission spéciale parce qu'à mon avis, à Toulon, ça va encore bouger. Hein. On est trop fous pour que ça en reste là. Allez, merci messieurs. Salut, bonne soirée à tous.
Ciao. Salut tout le monde.